L'anarchie, sa philosophie, son idéal. Pierre Kropotkin. Aujourd'hui seulement, depuis 20 ans à peine, nous commençons à reconquérir, par la lutte, par la révolte, quelques amorces du droit d'association, qui fut librement pratiqué par les artisans et les cultivateurs du sol à travers tout le Moyen-Âge. Et quelle est la tendance qui domine déjà dans la vie des nations civilisées? N'est-ce pas celle de s'unir, de s'associer, de se constituer en 1000 et 1000 sociétés libres pour la satisfaction de tous les besoins multiples de l'homme civilisé? L'Europe se couvre en effet d'associations volontaires pour l'étude, pour l'instruction, pour l'industrie et le commerce, pour la science, l'art et la littérature, pour l'exploitation et pour la résistance à l'exploitation, pour l'amusement et pour le travail sérieux, pour la jouissance et pour l'abnégation, pour tout ce qui fait la vie de l'être actif et pensant. Nous voyons surgir ces sociétés dans tous les coins et recoins de chacun des domaines, politique, économique, artistique, intellectuel. Les unes ne vivent que ce que vivent les roses, d'autres se maintiennent déjà depuis des décennies, et toutes cherchent, en maintenant l'indépendance de chaque groupe, cercle, branche ou section, à se fédérer, à s'unir, par-dessus les frontières, aussi bien que dans chaque nation. À couvrir toute la vie du civilisé d'un réseau dont les mailles s'entrecroisent et s'enchevêtrent. Leur nombre se chiffre déjà par dizaines de mille, elles embrassent des millions d'adhérents. Mais y a-t-il 50 ans que l'État et l'Église commencèrent à en tolérer quelques-unes à peine? Partout, ces sociétés empiètent déjà sur les fonctions de l'État et cherchent à substituer l'action libre des volontaires à celle de l'État centralisé. En Angleterre, on voit surgir des compagnies d'assurance contre le vol, des sociétés de volontaires pour la défense du territoire, des sociétés pour la défense des côtes, que l'État cherche évidemment à placer sous sa gouverne, et dont il veut faire ses instruments de domination, mais dont l'idée mère fut de se passer de l'État. N'étaient l'Église et l'État, les sociétés libres auraient déjà conquis pour l'œuvre volontaire l'immense domaine de l'éducation. Et malgré toutes les difficultés, elles commencent à envahir ce domaine, et elles y font déjà sentir leur influence. Et lorsqu'on constate les progrès qui s'accomplissent dans cette direction, malgré et contre l'État, qui tient à garder la suprématie qu'il avait conquise pendant ces 3 derniers siècles, lorsque l'on voit comment la société volontaire envahit tout et n'est arrêtée dans ses développements que par la force de l'État, on est forcé de reconnaître une puissante tendance, une force latente de la société moderne. Et on a droit de se poser cette question. Si d'ici 5, 10 ou 20 ans, peu importe, les travailleurs révoltés réussissaient à briser la dite société d'assurance mutuelle entre propriétaires, banquiers, prêtres, juges et soldats. Si le peuple devient maître de ses destinées pour quelques mois et met la main sur les richesses qu'il a créées et qui lui appartiennent de droit, cherchera-t-il vraiment à reconstituer à nouveau cette pieuvre, l'État? Ou bien ne cherchera-t-il pas plutôt à s'organiser du simple au composé selon l'accord mutuel et les besoins infiniment variés et toujours changeants de chaque localité pour s'assurer la possession de ses richesses, pour se garantir mutuellement la vie et produire ce qui sera trouvé nécessaire à la vie? Suivra-t-il la tendance dominante du siècle ou bien marchera-t-il contre cette tendance et cherchera-t-il à reconstituer l'autorité démolie? L'homme éduqué, le civilisé, comme disait Fourier avec mépris, frémit à l'idée que la société pourrait un jour se trouver sans juge, sans gendarme, sans geôlier. Mais franchement, en avez-vous autant besoin qu'on vous l'a dit dans les bouquins, bouquins écrits, remarquez-le bien, par des savants qui généralement connaissent bien ce qui a été écrit par d'autres avant eux, mais pour la plupart ignorent absolument le peuple et sa vie quotidienne. Si nous pouvons nous promener sans crainte, non seulement dans les rues de Paris qui fourmillent de policiers, mais surtout dans les chemins ruraux où l'on ne rencontre que de rares passants, est-ce à la police que nous devons cette sécurité? Ou bien plutôt à l'absence de gens qui tiennent à nous assommer ou à nous dévaliser? Je ne parle évidemment pas de celui qui se trouve porteur de millions. Celui-là, un procès récent nous l'apprend, est vite dévalisé, de préférence dans les endroits où il y a autant de policiers que de lanternes. Non, je parle de l'homme qui craint pour sa vie et non pour sa bourse, remplie d'écus mal acquis. Ces craintes sont-elles réelles? D'ailleurs, l'expérience n'a-t-elle pas démontré tout récemment que Jacques l'Éventreur faisait ses exploits sous les yeux de la police de Londres, et elle est encore une des plus actives, et qu'il ne cessa ses meurtres que lorsque la population elle-même de Whitechapel se mit à lui faire la chasse? Et dans nos rapports quotidiens avec les concitoyens, pensez-vous que ce soit réellement les juges, les geôliers et les gendarmes qui empêchent les actes antisociaux de se multiplier? Le juge, toujours féroce, puisque maniaque de la loi, le délateur, le mouchard, le policier, tout ce monde interlope qui vivote autour des bâtiments, nommé par la dérision « palais de justice », ne déverse-t-il pas dans la société la démoralisation à plein flot? Lisez les procès, jetez un regard derrière la coulisse, poussez l'analyse plus loin que la façade extérieure, et vous en sortez écœuré. La prison qui tue dans l'homme toute volonté et toute force de caractère, qui renferme dans ses murs plus de vices qu'on n'en rencontre sur aucun autre point du globe, n'a-t-elle pas toujours été l'université du crime? La cour d'un tribunal n'est-elle pas une école de férocité? Et ainsi de suite. On nous dit que, quand nous demandons l'abolition de l'État et de tous ses organes, nous rêvons une société composée d'hommes meilleurs qu'ils ne le sont en réalité. Non, mille fois non. Tout ce que nous demandons, c'est qu'on ne rende pas les hommes pires qu'ils le sont par de pareilles institutions. Un jour, un légiste allemand de grand renom, Tering, voulut résumer l'œuvre scientifique de sa vie et rédiger un traité, dans lequel il se proposait d'analyser les facteurs qui maintiennent dans la société la vie sociale. Le but dans le droit, Der Zweck im Rechte, tel est le titre de cet ouvrage qui jouit d'une réputation bien méritée. Il fit un plan élaboré de ce traité et discuta avec beaucoup d'érudition les deux facteurs coercitifs, le salariat et les autres formes de coercition inscrites dans la loi. À la fin de son ouvrage, il réserva deux paragraphes pour mentionner les deux facteurs non coercitifs auxquels il n'attachait, comme de raison chez un juriste, qu'une médiocre importance, le sentiment du devoir et le sentiment de sympathie. Mais qu'arrivait-il? À mesure qu'il analysait les facteurs coercitifs, il constatait leur insuffisance. Il leur consacra un volume entier d'analyses serrées et le résultat fut d'amoindrir leur importance. Quand il commença les deux derniers paragraphes, quand il se mit à réfléchir sur les facteurs non coercitifs de la société, il s'aperçut de leur importance immense, prépondérante. Il se vit forcé d'écrire un second volume, deux fois plus gros que le premier, sur ces deux facteurs, la restreinte volontaire et l'appui mutuel. Et encore, n'analysa-t-il qu'une partie infime de ces derniers, ce qui résulte des sympathies personnelles et toucha à peine à la libre entente qui résulte des institutions sociales. Eh bien, cessez de répéter les formules apprises à l'école, pensez à ces idées, et il vous arrivera la même chose qui est arrivée à Tering. Vous reconnaîtrez l'importance minime de la coercition comparée aux facteurs de l'assentiment volontaire dans la société. D'autre part, si, suivant un conseil bien vieux donné par Bentham, vous vous mettez à réfléchir aux conséquences funestes, directes et surtout indirectes, de la coercition légale, alors, comme Tolstoï, comme nous, vous prendrez en haine cet emploi de la force et vous arriverez à vous dire que la société possède mille autres moyens bien plus efficaces d'empêcher les actes antisociaux. Si elle les néglige aujourd'hui, c'est parce que son éducation, faite par l'Église et par l'État, sa couardise, sa paresse d'esprit, l'empêche de voir clair dans ces questions. Quand un enfant a fait une peccadille, il est si commode de le punir. Cela coupe court à toute discussion. Il est si facile, n'est-ce pas, de faire guillotiner un homme. Surtout quand on a un déblé payé à l'année. Ça nous dispense de penser aux causes des crimes.